Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Y a-t-il un mystère du double 6? 2 fois 6 égale 12. Mais 12 pieds suffisent-ils pour faire un alexandrin? L'alexandrin, forcément majestueux. La passion racinienne ne se comprendrait pas sans la froideur numérique. Mais comment dire l'alexandrin? Chanter le vers serait pompeux, et là comme ailleurs, il y a des modes. Ainsi, doit-on marquer les liaisons ou laisser une légère respiration? Les chemins de la connaissance, question autour de l'alexandrin, « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur » par Françoise Lebrun. Voici les deux premiers volets de cette série, « Raison d'un succès », puis « Dire l'alexandrin ». Première émission avec Jean-Loup Rivière, Jacques Roubaud et Claude Duneton, diffusée pour la première fois sur France Culture le 20 avril 1992.
En préliminaire à des conversations sur l'alexandrin qui peuvent paraître des sujets comme ça un peu capillaires, quoi. Je veux dire, de couper les cheveux en quatre, mais c'est faut pas mépriser ou négliger ces sujets-là, parce que c'est toujours en commençant par les cheveux qu'on tire les choses intéressantes. Puis les cheveux sont très très proches du cerveau, et ça me fait penser à, mais je cite mal, début d'une chronique de Vialat où il disait le temps est gris, les nouvelles sont mauvaises, distrayons-nous un peu, parlons grammaire. Ou alexandrin.
Alexandrin, alexandrine, adjectif et nom masculin. 1080 du latin alexandrinus. Premièrement, d'Alexandrie et de la civilisation hellénistique dont cette ville fut le centre. Poètes alexandrins, Callimaque, Hérondas, Théocrite, érudits et raffinés. Art alexandrin, généralement expressionniste, bas-relief, mosaïque, par extension d'une subtilité excessive. Les discussions alexandrines, Sartre. Deuxièmement, 1432, de l'Iroman d'Alexandre, poème français du XIIe siècle, en vers de 12 syllabes.
Bien, disons, c'est un nom qu'il a depuis très longtemps. Oui. On a donné des noms à d'autres vers à l'époque, au XVIe siècle ou à d'autres moments, mais en fait, le seul qui ait duré depuis qu'il a été désigné au XVe siècle dans les arts de rhétorique, lui est resté.
Jacques Roubaud.
En fait, l'alexandrin, donc, est à pas. Le nom de l'alexandrin lui a été donné à cause du roman d'Alexandre, médiéval. Et ensuite, quand il est réapparu au XVIe siècle, il est réapparu avec son nom. Ce qu'on peut dire en regardant les choses d'une façon un peu historique, c'est que l'alexandrin fait différer le français des autres langues romanes. Le grand vers long médiéval et renaissance de toutes les langues romanes, c'est l'équivalent du décasyllabe. Et en France, le décasyllabe a été supplanté par l'alexandrin au XVIe siècle. Donc s'il y a un phénomène particulier, s'il y a un relatif mystère, c'est là. Alors on peut évidemment, quand on étudie de près la composition, la structure interne de ce vers, qui est beaucoup plus complexe que de simplement 12 syllabes, ce n'est pas seulement 12 syllabes, avec 12 syllabes on ne fait pas un alexandrin, on fait un dodécasyllabe. Donc il a une organisation extrêmement riche, extrêmement forte, on se rend compte que cette organisation est beaucoup plus symétrique et beaucoup plus souple que la version française du décasyllabe, qui est une version finalement très rigide. Et dans sa grande époque, l'alexandrin des tragédies classiques, on a un vers qui a énormément d'éléments de symétrie et qui, d'une certaine façon, ressemble beaucoup à l'architecture versaillaise. Il y a ce même goût d'un équilibre complexe, mais très très fortement appuyé sur la symétrie. Et c'est tout le contraire donc du vers italien, du vers espagnol et du décasyllabe français, ou même du vers anglais.
Jean-Louis Rivière.
Oui, c'est vraiment énigmatique, cette prédominance de l'alexandrin, parce que c'est, dans d'autres traditions dramatiques, il y a eu des mélanges comme ça, enfin, notamment, je pense à Lope de Vega, où, bon là, c'est majoritairement en octosyllabes, mais où l'écrivain, le poète, comme ça, suit un peu l'état nerveux, sinon névrotique, de ces personnages. Et, par exemple, quand les hommes deviennent un peu pontifiants, le vers de 8 syllabes passe à 12 syllabes, enfin, alexandrin, en réalité en espagnol c'est un endécasyllabe, mais qu'on peut rendre en français par un. Enfin, qui a le sens ou la tonalité comme ça, de l'alexandrin. Et quand les femmes deviennent un peu hystériques, là, de 8 on passe à 6 syllabes. Alors là, c'est un exemple comme ça, oui, de variation métrique selon l'état névrotique des personnages. Quoi. Mais ça n'existe pas dans la littérature française.
Donc il y a cette espèce de grande symétrie profonde liée à ce double 6, le mystère du double 6. Et c'est indiscutablement quelque chose qui numériquement éveille un certain nombre d'échos des conceptions pythagoriciennes anciennes sur le nombre, puisque 6 est le nombre parfait, et donc il y a deux fois le 6, c'est le nombre parfait ayant dans un deuxième moment son propre écho. Et en plus, il faut bien voir que l'organisation de l'alexandrin, un alexandrin classique ne vient jamais tout seul. Avant Apollinaire, il n'y a pas d'alexandrin unique. Et donc, non seulement il vient tout seul, il vient par deux, mais non seulement il vient par deux, mais il vient par quatre, puisque les vers rimés doivent alterner. Et donc, on a quand même quelque chose de fortement majestueux qui est quelque chose qui a 48 syllabes. Et donc, on pourrait dire, il n'y a pas de tragédie classique. On ne peut pas écrire une tragédie classique en moins de quatre vers.
Ce qui m'a un peu frappé ces derniers temps, c'est que j'ai eu le sentiment de voir réapparaître beaucoup de mises en scène, enfin d'appels au théâtre classique dans les spectacles qui étaient proposés, qui nous étaient proposés. Et de voir revenir aussi, par exemple, par rapport à des jeunes comédiens, le besoin d'avoir ce travail de fond. Donc ce besoin d'une langue qui est donc soutenue par un rythme, par une scansion, et d'un autre côté, de voir arriver une langue aussi extrêmement scandée, pas tout à fait sur les mêmes modes, puisque l'origine de cette scansion est étrangère, mais qui est le rap. Et je me posais un tout petit peu la question de savoir si la langue que nous parlons depuis une vingtaine d'années ne s'est pas appauvrie au point d'avoir besoin d'avoir recours à ce support de la scansion, et c'est toujours aussi cette scansion qui fait vers en même temps, c'est-à-dire je tourne un peu autour de la question pour dire finalement est-ce que on n'est pas en train d'essayer de sauver notre langage en ce moment avec ce retour à l'alexandrin et à cette scansion du rap.
Difficile d'avoir des certitudes à ce sujet, mais il est vrai que la disparition du modèle de l'alexandrin, qui a d'abord été affaibli dans la pratique de la poésie moderne, et puis s'est progressivement affaibli aussi dans l'enseignement et par conséquent dans l'oreille des gens, a laissé, on peut dire d'une certaine manière, laisse la langue sans support rythmique admis de tout, par tous. Donc il demeure comme une espèce de grand fantôme, et on a tendance, quand on veut faire appel donc aux grands sentiments ou aux sentiments de l'intérêt, c'est ce que donne également la publicité, on voit réapparaître un petit peu comme des résurgences ces cadences traditionnelles, mais rien, il n'y a rien qui a été substitué à cette cadence-là. Et il s'ensuit qu'une langue qui ne repose pas, qui n'est pas intimement liée sur une cadence portée par un rythme de vers, à mon avis, a des problèmes. Elle est en danger, je serais tout à fait d'accord avec votre diagnostic. Alors, le problème est de savoir si aller le chercher du côté de musique, par exemple, ou bien aller le chercher dans une espèce de retour à l'Alexandra, c'est véritablement la solution. Je n'en suis pas certain. Par ailleurs, dans ce que vous disiez antérieurement, c'est-à-dire l'espèce de besoin que ressentent un certain nombre de jeunes comédiens et de troupes de créer de nouveau un lien avec cette espèce de contrôle que représente le nombre, je crois que c'est aussi un phénomène de simple compréhension. Car si dans le théâtre classique, si on ne saisit pas réellement le système du vers, à la limite, on ne comprend plus ce qu'on dit. Le sens même du texte est fortement lié à la saisie de l'armature et le passage d'une passion racinienne ne se comprend pas sans la froideur numérique. Hein. Si on n'a pas ça, on perd tout.
L'ignorance et l'erreur, ces naissantes pièces, en habit de marquis, en robe de...
Il y a probablement un lien très profond dans l'histoire de la langue entre le vers et la particularité du français à l'intérieur des langues romanes, qui est le jeu du muet. En fait, on peut voir, d'une certaine façon, que presque tout le système du vers français, c'est particulièrement sensible dans l'Alexandrin, est lié dans un jeu extrêmement... Il y a un jeu très subtil sur le muet. Donc la chute de ce système amène aussi un déplacement de caractère déglingant du système du muet dans la langue elle-même. Et ça, c'est extrêmement frappant. C'est une chose que j'ai remarqué, la tendance à la féminisation générale des finales dans le parler jeune, dans le parler des jeunes. J'ai mal au cœur eux. Enfin, on a ça de façon extrêmement frappante. Et je crois qu'il y a une sorte de déglingage déglingage de la langue lié. Alors, est-ce que c'est lié, à mon avis, il ne faut pas prendre l'effet pour la cause. Je ne pense pas que c'est parce qu'on ne s'intéresse plus à l'alexandrin que la langue se déglingue. Il y a un lien entre les deux, mais c'est un lien compliqué. Il n'est pas certain que revenir à l'alexandrin permettra de changer les phénomènes linguistiques dépendent de choses plus vastes. Mais malgré tout, il y a certainement quelque chose là.
Marie.
En cela comme en tout, le ciel qui nous conduit, racine, fait briller sa profonde sagesse.
L'alexandrin est presque la matrice, qu'il ait été cassé ou qu'il ait été respecté. Et on joue beaucoup autour de lui, que ce soit en négation ou en absorption, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je reviens un petit peu à l'histoire du joyau définitif, enfin de cette pierre de touche, finalement, de la langue française, qui est cette structure.
Il me semble qu'en effet, le diagnostic que porte Mallarmé au moment où cette rupture, cette attaque contre le système du vers, on a touché au vers, dit-il, apparaît. Ce diagnostic, crise de vers, la crise du vers, reste à peu près toujours valable et il n'y a pas eu de solution dans la destruction réellement. Les tentatives de tout le XXe siècle du vers libre n'ont pas amené à substituer un autre système de vers ou l'absence de système non plus. Au système qui était le système ancien, et c'est un des éléments de la crise de la perception de la poésie, de la crise de la perception généralement de la littérature. Car il faut bien voir que pendant la grande période de l'alexandrin et encore au XIXe siècle, il y a non seulement l'alexandrin est dans le vers, mais il est aussi dans la prose.
J'ai un petit peu regardé ce qui se passait sur les expressions, donc toutes faites.
Claude Duntot.
L'expression populaire. Et il n'y a pas d'alexandrin, en fait. C'est assez curieux. Ça marche en 5, en rythme de 5, de 8 surtout. Le 8 est. L'octosyllabe est quand même un plus vieux fond en ce qui concerne la langue française. Et un certain nombre de proverbes, en tout cas, ont l'air d'être forgés en octosyllabes. Et en alexandrin, non, en fait. Bon, faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est pas du tout un alexandrin. Faire contre mauvaise fortune bon cœur, c'est 8. Du côté du manche, il y en a quelques-uns qui sont en 8, qui sont en 5, je veux dire. Et quelques-uns en 6. mais je n'en ai pas trouvé à la vérité de proverbes, d'expressions toutes faites, etc., qui soient, mais bien à peut-être, mais je n'en ai pas trouvé qui soient en 12. En 12 et en alexandrin, en fait. Alors, bien entendu, ceux qui sont eux-mêmes des vers devenus célèbres. Hein, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et bon, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et là, c'est encore plus intéressant parce que c'est effectivement la bide faite tout à fait caractéristique. Parce que l'expression qui arrive souvent chez La Fontaine, il a fait une fable sur une expression, à partir d'une expression courante qui est, elle, du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle. Et en fait, il a redonné du souffle à cette expression qui est restée. Il a tué l'expression d'origine, et parce que l'expression s'est transmise sous sa forme de son vers. Et c'est exactement ça qui s'est passé. C'est-à-dire que il a construit le lièvre et la tortue à partir de l'expression qu'on trouve avant lui. Il ne sert de rien de courir, il faut partir à temps. Voilà l'expression d'origine, c'est pas du tout un alexandrin. Et lui, il la concrétise, il lui donne sa musique, et il fait « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Et c'est sous cette forme, donc, apprêtée, enfin repeinte, là, que l'expression s'est transmise, en fait. C'est devenu un proverbe, comme ça. Alors, en tout cas, un type dans l'époque moderne qui est un des grands chefs pour l'utilisation des alexandrins cachés, là, c'est Vialat. Bon, c'est bourré d'exemples. Il suffit de prendre une page d'un roman de Vialat pour y trouver plein d'alexandrins. Là, j'ai par exemple juste une phrase qui dit, c'est dans « La dame du Job ». Un de ses romans. J'ai sa photographie dans un album gaufré avec un col marin en dentelle, ouvragé, des cheveux blonds, très bien peignés. J'essaie de casser volontairement. Hein. Et ces mille détails qui disent l'amour des mères et qui accentuent les crèves-cœurs. Bon, c'est une très très belle phrase. Mais en plus d'être une très belle phrase sur la nostalgie et sur les choses comme ça, on peut la mettre avec, en allant à la ligne, j'ai sa photographie dans un album gaufré, virgule à la ligne, avec un col marin en dentelle ouvragée, et là ça rime même. Des cheveux blonds très bien peignés, 8, donc on a 12, 12, 8. Et ces mille détails qui disent l'amour des mères, c'est 12, et qui accentuent les crèves-cœurs, 8. C'est-à-dire que cette phrase est faite de 2 fois 12, deux alexandrins qui riment, qui assonnent entre eux, gaufrés et ouvragés, plus 8, plus 12, plus 8.
Le slogan le plus connu de 1968 est un peu plus qu'une rupture dans le 6, c'est un jeu métrique sur l'alexandrin. En effet, ça se voit très, très simplement, ce n'est qu'un début, continuons le combat. Si vous le coupez, ce n'est qu'un début, continuons le combat. 6-6. Et continuons le combat, ça va faire 12. Mais il ne le prononçait pas comme ça. Donc on peut faire l'analyse de ce slogan et c'est indiscutablement un jeu de dérision, destruction et dépendance par rapport à l'Alexandre. Il y a les deux.
Et je vais maintenant vous poser une question. Quel est l'alexandrin qui vous vient le premier à la tête ?
Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur.
Les chemins de la connaissance, question autour de l'alexandrin. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, par Françoise Lebrun. Raison d'un succès, avec Jean-Loup Rivière, Jacques Roubaud et Claude Duneton. Première diffusion sur France Culture le 20 avril 1992. Tout de suite, la deuxième émission, Dire l'alexandrin, avec François Regnault et Gisèle Casadesu.
Que toujours dans ton vers, le sens coupant les mots, suspendent les mystiches, en marque le repos. Voilà. Il y a dans l'art de dire les vers une partie, en quelque sorte mécanique, de certaines règles qu'on peut se prescrire. Talma.
Malgré l'abondance, toute relative d'ailleurs, des traités de diction, il existait beaucoup plus de traités de déclamation au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est-à-dire sur la façon finalement d'interpréter les vers qu'on dit, mais sur la façon de les dire à proprement parler. Je pense que la transmission orale suffisait, c'est-à-dire qu'il suffisait d'appartenir à une troupe de comédiens qui les disent, d'entrer dans la Comédie française ou d'être formé au conservatoire pour que cet art se transmette.
J'ai eu la grande chance au conservatoire d'être dans la classe de Georges Leroy. Georges Leroy, qui était un éminent sociétaire de la Comédie française et qui était donc professeur, qui a fait un traité de la diction qui fait référence même encore aujourd'hui et une grammaire de la diction. Et j'étais très jeune, beaucoup des arguments, beaucoup de tout ce qu'il disait me passait peut-être à l'époque un peu au-dessus de la tête. J'avais 17 ans, je ne savais rien. Alors, lui était très, très, très concerné par tout ce qui touchait l'articulation d'abord, la respiration, la façon de phraser. Et j'ai appris avec lui, et après, en jouant aussi au Théâtre français à ses côtés, j'ai appris ce qui n'est pas une loi, ce qui n'est pas... En fait, il n'y a pas... Comment expliquer ? Il n'y a pas réellement de loi, mais il y a tout de même des règles. Georges Leroy disait, bon, on doit, dans les vers, je vous parle des vers naturellement, on doit s'arrêter sujet, verbe, s'arrêter avant une inversion, savoir comment on doit donner de l'importance à certains vers et non pas à d'autres, déblayer certains, dire des vers par paquet de deux ou quatre et après éliminer. On doit savoir que le vers doit garder son harmonie, mais essayer d'être naturel. Mais il y a un naturel, si je peux dire, qui est un peu différent pour chaque œuvre.
Il est probable qu'à partir d'un certain moment, il ne s'est plus transmis régulièrement, ou du moins que... Il a été un peu arrêté. Je me rappelle très bien qu'Antoine Vitez, avec qui on est très souvent parlé, disait qu'il était surpris qu'à la Comédie française, par exemple, et notamment au conservatoire, pendant un certain temps, on fasse comme si le vers devait être oublié. Alors, demeurait en vigueur, évidemment, quand on voulait s'y référer, quelques traités du genre de celui de Leroy, qui date tout de même de la guerre de 14-18, dans lesquels le grand inconvénient, à notre sens, c'est-à-dire au sens de Jean-Claude Milner et du mien, est que bien souvent, lorsqu'on découvre des problèmes, la réponse est celle que, il faut bien dire, la bourgeoisie française pouvait faire encore jusqu'à la fin de ses colonies, si vous voulez, c'est-à-dire le bon goût jugera, le bon goût décidera. Il suffit d'un peu d'entendre, un peu d'oreille. Or, on sait bien que le bon goût change, puisque le même apprenti qui, quand vous commencez à lui apprendre les vers, est heurté par les liaisons les plus élémentaires, au point de penser qu'un esprit amoureux est quelque chose qui ne peut pas être dit tellement c'est ridicule, au bout de 2 heures de travail avec lui, il finit par faire plus de liaisons que vous lui en demandez, c'est-à-dire qu'il acquiert très vite le mécanisme de la liaison, puisque celui-là fait en général problème aux comédiens. Et par conséquent, vous vous apercevez que le bon goût ne suffit pas. Et que nous sommes partis de principes scientifiques, au sens de la science linguistique, ni plus ni moins, mais de principes scientifiques visant à établir des règles élémentaires. Elles sont peu nombreuses, mais le détail de leur application est compliqué. Mais des règles élémentaires qui soient partagées par tout être rationnel parlant la langue française.
Je pense à un des plus beaux vers de la langue française, dit par Hippolyte, « Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur ». Il est certain qu'on ne peut pas dire ce vers en le hachant ou en le coupant. À côté de ça, vous prenez un vers de Régnard, « Ne me souviens pas d'avoir presque été fille », on pourrait pas le dire, on peut pas le dire du tout de la même manière. Donc, à chaque œuvre, il y a une façon de dire, de tourner le verre en gardant son naturel. C'est ça qui est difficile, même dans la tragédie, de garder, de ne pas prendre un ton pompeux, de ne pas récitatif, de ne pas chanter. J'ai connu une époque où des artistes de la Comédie française chantaient le verre. Bon, bah oui, alors c'était très beau quelquefois, et puis c'était un petit peu trop pompeux. Et puis d'autres, il y a des modes aussi. On subit aussi l'environnement de son époque, mais il faut tout de même garder certaines règles. Un Fernand Ledoux, un Jean de Bucourt apportaient énormément de naturel dans leur jeu, mais étaient tout de même respectueux non seulement du texte, mais du vers et de la manière de le dire. Je sais que Fernand Ledoux était contre les liaisons, mais s'il ne faisait pas de liaison ou s'il n'en faisait pas faire à ses élèves, il faisait prendre la légère respiration qui permettait d'éviter l'hiatus. Et à côté de ça, un homme de grand talent comme Henri Roland, qui était professeur aussi au conservatoire et au centre, j'étais étonnée, je l'entendais faire une liaison que Georges Leroy refusait, et même le Littré. Il faisait une liaison avec l'Est de toujours. Or, Leroy préconisait, et Littré aussi, que quand deux consonnes se suivent, R et T, ou T et R et S, ou T, de faire la liaison avec l'avant-dernière consonne. On ne dit pas toujours Z, mais toujours A. On ne dit pas de part en part, mais de part en part. Voilà.
L'une des particularités du français qui est très étrange par rapport aux langues qui nous entourent, c'est-à-dire par rapport à l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, par exemple, c'est que l'accent porte sur la dernière syllabe, c'est-à-dire l'accent tonique porte sur la dernière syllabe, toujours de ce groupe de mots et non pas du mot séparé. Alors, c'est-à-dire, je ne vais pas ouvrir un dictionnaire français pour trouver éléphant accentué sur fan. Parce que, quand je dis l'éléphant blanc, tout d'un coup, l'accent est passé sur blanc. Quand je dis l'éléphant blanc d'Afrique, il est passé sur fric, puisque le muet tombe. Quand je dis le grand éléphant blanc d'Afrique, c'est la même chose. C'est un phénomène très connu, on l'appelle la désaccentuation. Dans les traités courants, vous lisez qu'on dit un lieutenant accent sur nan, un colonel accent sur nel, mais vous ne dites pas un lieutenant-colonel, vous dites un lieutenant-colonel, et l'accent qui était sur nan a disparu. C'est bien que, si vous voulez, les règles de le muet, d'une part, les règles de la liaison, d'autre part, et les règles de l'accentuation forment tout un système qui porte sur ce que nous appelons le mot phonologique et le groupe de mots. Alors, si on ne tient pas compte du groupe phonologique, du groupe de mots tel qu'il est, on se perd, parce qu'on ne sait pas si on doit faire la liaison ou pas, si on doit élider ou compter le muet ou pas, et on ne sait pas où est-ce qu'on doit mettre l'accent. Alors maintenant, on passe à la difficulté suivante, c'est que Jean-Claude Milner, dans un article, a posé comme thèse, qui me semble fondée, que le mot phonologique, que le vers alexandrin de 12 pieds est à lui seul un mot phonologique aussi. Ce qui veut dire que les règles de l'e-muet vont valoir pour le vers tout ensemble, que les règles de la liaison vont valoir pour le vers tout ensemble, ce qui veut dire qu'on va faire toutes les liaisons à l'intérieur du vers. Et que l'accentuation va valoir aussi pour le mot phonologique tout ensemble, à ceci près que, ici, on va le diviser en deux hémistiches. Bon, et puis que, comme ça fait des creux, on va retrouver, si vous voulez, d'autres accents éventuels. Alors vous obtenez immédiatement une contradiction, qui est que un vers alexandrin, ça a 12 pieds. Un mot phonologique de la langue, ça n'en a pas beaucoup. Je dis le chat mange la souris, par exemple. J'ai le chat, premier mot phonologique, ça fait 2 syllabes. Mange la souris, 1, 2, 3, 4, quand je parle couramment. Ou mange la souris, 1, 2, 3, 4, 5, quand je parle de façon un peu plus tenue. Mais ce qui fait, en général, les mots phonologiques dans la langue française ont 2 syllabes, 3 syllabes, 4 syllabes, 5 syllabes, mais pas beaucoup plus. Ce qui fait que l'alexandrin va pouvoir combiner beaucoup de mots phonologiques de la langue. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est établi lentement au cours des siècles comme le vers le plus adéquat à renfermer en lui la plus grande quantité de combinaisons possibles de la prose ou de la langue parlée. Vous savez, la chanson de Roland est écrite encore en décasyllabes, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec l'alexandrin, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je prends tous les cas possibles. Donc vous avez toutes sortes de combinaisons à l'intérieur du 12, qui font que vous pouvez y faire entrer toutes sortes de formules de la langue, finalement très prosaïques. Ce qui lui donne ce caractère de prose que, par exemple, les commentateurs du XVIIe siècle signalaient, d'Aubignac, et Corneille dit « Puisque les vers alexandrins sont censés être au théâtre l'équivalent de la prose, cependant que les stances seraient au théâtre l'équivalent des vers. » C'est un peu comme le récitatif et l'aria, si vous voulez, à l'opéra. Tout ça, c'est chanté, mais en réalité, quand on échange des propos avec son voisin, c'est plutôt le récitatif. Et puis quand tout d'un coup, on a un mouvement de l'âme ou du cœur, on passe à l'aria. Alors, on trouve donc une contradiction entre le vers qui va vous demander qu'on fasse toutes les liaisons, qu'on respecte tous les e muets, qu'on accentue d'une certaine façon 6 et 12, et puis la prose qui vous demande autre chose. Alors, tout l'art de la diction, c'est de combiner cette contradiction sans sacrifier ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire sans donner ni dans le ronron qui sacrifie la prose. Alors vous avez la 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 la, l'effet machine à coudre, que nous signalons dans le traité, qui est souvent obtenu par certains comédiens parce que au moins ils sont tranquilles. Alors, ou ma flamme elle-même, contraire, condamnera l'aveu que je prétends lui faire, ou bien quelque malheur qu'il en puisse avenir, ce n'est que par ma mort qu'on la peut obtenir. Une tragédie entière comme ça, c'est épuisant. Ou bien alors vous faites le langage parlé et vous vous arrangez pour casser le verre, comme certains comédiens disent, en disant « Oui, on va travailler, mais on va surtout casser le verre. » Alors, casser les verres, n'est-ce pas ? Et alors on obtient quelque chose comme, je ne sais pas, « Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel. Je viens, selon l'usage antique et solennel, célébrer avec vous la fameuse journée où sur le mont Sina, la loi vous fut donnée. » Là, j'ai cassé tous les vers. Alors, à chaque fois, il faudra faire des stratégies, des monnayages, des espèces de compromis, si vous voulez, entre la langue et le vers, de telle façon qu'il est évident qu'un e muet que le vers demande, mais que la langue aurait tendance à supprimer ou à atténuer, sera moins important qu'un e muet que les deux demandent. Je prenais ce vers. Homonyme à ma flamme, elle-même contraire. Bon, dans la langue courante, je dirais homonyme à ma flamme, elle-même contraire. Donc, elle-même sera dans la langue dite en atténuant le E et même en supprimant le E de elle. Si je le fais machine à coudre, j'aurais homonyme à ma flamme, elle-même contraire. Mais elle-même contraire sonne difficilement parce qu'on sait que dans la langue courante, il est atténué. Donc, on aura des E à 50%. Mais je veux dire, mais on aura des E à 20%, à 50%, à 30%, à 80% selon les cas. Donc, vous aurez homonyme à ma flamme, elle-même contraire. Je les ai comptés là, mais je les ai en même temps atténués. Et finalement, vous obtenez la diction la plus naturelle du vers, c'est-à-dire tout à fait à la fin, c'est comme M. Jourdain, les apprentis s'aperçoivent qu'il faut simplement dire le plus naturellement du monde en faisant entendre d'un côté le vers avec tous ses pieds et de l'autre la langue avec tous ses réquisites. Pour les accents, on en compte sur le sixième et le douzième pied qui sont presque automatiques puisque tous les vers alexandrins classiques sont toujours arrêtés à cet endroit-là. Il faut attendre Rimbaud pour que ça s'arrête. Quand vous avez, vous prenez le bateau ivre, les vers sont réguliers pratiquement tous. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs, etc. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais quand il risque un vers comme fileur éternel des immobilités bleues, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors là, vous obtenez une difficulté. Mais jamais un classique ne procède de cette façon-là. Jamais un auteur classique, et même pas Victor Hugo. Je citais à l'instant « Regardez tous, voilà l'homme rouge qui passe ». En prose, c'est « Regardez tous, voilà l'homme rouge qui passe ». Personne ne pense que c'est un alexandrin. Si je le dis comme un alexandrin, j'aurais voilà, « Regardez tous, voilà l'homme rouge qui passe ». Et je casse le... Je ne comprends plus rien. Ça devient stupide. Donc je devrais obtenir quelque chose comme « Regardez tous, voilà l'homme rouge qui passe ». Mais je dois entendre les « e » dans « Voilà l'homme rouge qui passe ». Pour entendre la fin d'un vers, et pas l'homme rouge qui passe, hein, pour entendre que c'est la fin d'une tragédie en vers. Pour les liaisons, de la même façon, les liaisons qui sont à part entière sont faciles à faire. Les hommes, les arbres, tout le monde les fait. Mais quand vous avez des liaisons plus difficiles, nous avons proposé une technique de la liaison indirecte qui consiste non pas à faire passer la consonne de liaison sur le mot qui suit, comme dans les hommes, les arbres, où le S qui se réalise en « ze », va avec la voyelle qui suit, c'est-à-dire c'est pas les hommes, c'est les hommes, mais en revanche dans une quand la liaison se trouve en la consonne de liaison se trouve en fin de mot phonologique de la langue et à un endroit normalement où on l'arrêterait, faudra trouver un exemple, mais mettons qu'on est dans un vers, il vient et vous voyez, etc. Alors il vient et vous voyez et faites entendre évite liatus, mais casse la structure de la langue qui est une phrase « il vient ». Donc on doit avoir un très léger, là je prends un exemple très limite, dans lequel la liaison est presque si difficile à faire qu'on peut très bien imaginer même qu'un comédien fasse, il vient, et vous voyez, à condition qu'il tienne un certain souffle du vers. C'est ce que nous avons appelé la diction tenue, c'est-à-dire que quand on arrête le vers, il vient, et vous voyez, le vers se casse. Donc il faut, si on ne fait pas la liaison, on peut avoir une diction tenue qui sera « il vient et vous voyez que jamais », etc. Mais si on l'a fait, le « t » de « vient » doit être plutôt du côté de « 1 ». Dans « les hommes », le « z » va avec « les hommes », tandis que dans « il vient », alors ce qui donne « il vient et vous voyez », un léger « t » qui va du côté de « il vient ».« Il vient et vous voyez que jamais », dans, etc. Dans Athènes, je ne sais quoi. Je vais prendre un exemple, alors limite, un vers de Mallarmé comme celui-là dans Hérodiade, mais c'est vraiment, jamais les classiques ne se livreraient à des exercices d'acrobatie pareils. Mais ça me frappe, c'est « tu viens ou vois-je ici l'ombre d'une princesse ?» À mes bagues, tes doigts et leurs bagues, et cessent à la ligne de marcher dans un âge ignoré. Bon, c'est la nourrice qui parle à Hérodiade. Vous élevez le vers alexandrin qui est « à mes bagues, tes doigts et leurs bagues, et cessent hein, », qui est très tordu. Et vous avez, si vous le dites, je le redis en prose, « tu viens ou vois-je ici l'ombre d'une princesse ?» À mes lèvres, tes doigts et leurs bagues, et cessent de marcher dans un âge ignoré. Hein. Si je le fais en alexandrin, machine à coudre, j'obtiens « Tu viens ou vois-je ici l'ombre d'une princesse, à mes lèvres, tes doigts et leurs bagues, et cesse de marcher dans un âge ignoré. » Comment faire les deux? Là, on est à la limite, et vous admettrez que ni Racine ni Corneille ne vont à cette limite. Mais si on doit le faire, il me semble qu'on peut faire quelque chose du style « Tu viens ou vois-je ici l'ombre d'une princesse, à mes lèvres, tes doigts et leurs bagues, et cesse de marcher dans un âge ignoré. »
Je voulais vous demander quel était l'alexandrin qui vous vient immédiatement en tête.
Le jour n'est pas plus pire que le fond de mon cœur. Non, n'importe lequel. Je veux dire, c'est celui-là aujourd'hui, mais c'est n'importe lequel. On nous faisait à Arbat un fidèle rapport. J'en apprenais beaucoup quand j'étais jeune, petit, et j'en sais encore beaucoup par cœur, mais... Je dois dire que c'est un plaisir pour les comédiens assez vite, une fois qu'ils nagent dedans, de patauger là-dedans, il y a un certain bonheur qui leur vient assez vite.
C'était Les chemins de la connaissance, question autour de l'alexandrin. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, par Françoise Lebrun. Deuxième émission, Dire l'alexandrin, avec François Regnault et Gisèle Casadesus. Réalisation Jacques Taroni. Ces deux premières émissions d'une série de chemins de la connaissance ont été diffusées pour la première fois sur France Culture les 20 et 21 avril 1992. À suivre, une leçon de diction, le plaisir de lire l'alexandrin, puis l'alexandrin à la Comédie-Française.